Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Quand on perd un enfant, on a l'impression qu'un deuil, justement, a un début, avec le départ de cet enfant, et une fin. Parce qu'on nous a toujours dit que le deuil avait un processus, donc un début et une fin. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler du combat d'une mère, psychiatre de surcroît, pour faire en fait entrer dans le vocabulaire le mot qui désigne ses parents qui perdent un enfant. Ça fait plus de 25 ans qu'elle a perdu sa fille et je peux vous assurer que quand on perd un enfant, ce deuil qui a un début et une fin, eh bien, ça devient plus de la théorie que de la pratique. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Khayat, bonjour.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être ma femme d'aujourd'hui. Alors, Rita Khayat, vous, vous accumulez tellement de casquettes, psychiatre, écrivaine, femme de lettres, et j'en passe. Mais quand on vous, quand vous vous présentez, vous, en tant que femme, vous vous présentez comment, après le prénom et le nom?
Rien du tout, je dis femme.
C'est vrai?
Ben oui, ben ce livre de Nadia Larguette qui s'appelait « Les 100 femmes, 100 ».
Oui.
Moi, je suis la seule de toutes les 100. Elle m'a dit « Comment vous vous présentez ?» J'ai dit « Femme ».
Oui, point.
Voilà, point.
Parce que c'est déjà beaucoup?
Parce que c'est une aventure déjà d'être une femme.
Oui. Alors, si on peut s'arrêter sur un événement justement très compliqué que vous avez eu à vivre en tant que mère, c'est le départ de votre fille.
Oui.
En 97, et justement, ce n'est qu'en 2002 que vous avez publié un livre. Est-ce que ça c'était un retour en arrière pour mieux avancer?
Non, ce n'est pas du tout un retour, c'est un événement permanent.
Oui.
C'est un événement quotidien, permanent, et qui va finir, qui finira jamais, il finira avec moi.
Mm.
Et encore, il finira peut-être pas avec moi parce que j'ai créé des éditions en son nom. Et puis parce que là, en janvier, je vais aller à Paris, on va se réunir pour... c'est un travail que j'ai commencé avec l'Académie française, qui m'a répondu à travers le service du dictionnaire. C'est un travail que j'ai élaboré tout de suite parce que j'ai écrit un livre, comme vous le savez, qui s'appelle « Le désenfantement ».
Oui.
Donc on va se rencontrer. Je pense que j'espère faire passer le mot « désenfanté » que j'ai fait passer en italien à l'Accademia della Crusca, et en italien, on a fait passer le mot « défiliazione », c'est-à-dire la défiliation, privatif de filiation, et les défiliati, au pluriel, ce sont ceux qui ont perdu des enfants. Donc, j'ai présenté le livre, j'ai fait un tour, au moins de la région où le livre est sorti, et j'ai vu énormément de parents comme moi, des hommes, des femmes, des fois, qui avaient perdu des enfants il y avait extrêmement longtemps. Et ils se réunissent, ils en parlent. J'en ai pris dans mes bras, j'ai vu des femmes pleurer. C'était des moments extraordinaires. Et donc, il faut trouver un nom. Alors moi, je propose « Désenfanté » sur la musique de désenchanté, parce que le monde se désenchante. Le monde se désenchante après un drame pareil. Et puis, il y a une Française qui est arrivée jusqu'au Parlement français pour faire passer « parents d'ange ». Et ça tient pas parce que, par exemple, Fayrouz, qui a plus de 90 ans, vient de perdre un fils plus de 69 ans.
Mm.
Donc, ce n'est pas une parange, c'est une désenfantée.
Mm.
Elle a chanté pour lui, c'était majeur. C'était un événement exceptionnel, extraordinaire.
Mm. C'est vrai, parce que quand on perd un... Alors, on a la veuve, on a le veuf, on a l'orphelin, exactement.
On a le cousin, on a le faux frère même, le faux frère ou la fausse sœur. On a le gendre, la belle-mère, le beau-fils, on a tout ça et on n'a pas celui-là, ce terme-là. Il y a des explications derrière, des explications que je vais essayer d'aboutir devant les parents pour qu'on arrive à un consensus, parce qu'il faut absolument faire passer un mot. Mmh. Et ce mot de désenfanté, donc, on m'a trouvé à partir de Paris. Donc, le mot que je propose est en train de voyager et de faire sa place.
Mmh. Désenfanté, en fait, c'est comment ça résonne en moi, c'est... On m'a retiré mon enfant.
Exact. La mort a retiré l'enfant.
Oui.
Voilà.
Parce que enfanté, je donne la vie. Mm-hmm. Désenfanté, c'est on m'a retiré ce que j'ai donné.
Exactement. Mm. C'est le sens le plus profond.
Oui. Alors, on a l'impression. Pardon.
Je pense que vous êtes une maman.
Oui, absolument. Je suis une maman. J'ai deux filles, absolument.
J'ai compris et vous l'avez ressenti très fort.
Oui.
Donc le mot, peut-être qu'il faut que je me batte pour lui.
Oui. Vous en aviez besoin, justement, vous en avez besoin d'avoir ce mot ?
Absolument, absolument. D'abord parce que moi je travaille sur les mots, parce que le livre ne pouvait s'appeler que le désenfantement. Mm. Je ne pouvais pas trouver un autre terme.
Oui.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit sur leurs enfants. J'ai fait le tour du monde des gens qui ont perdu leurs enfants. J'ai vraiment fait le tour du monde. Et il y a un tabou là-dessus.
Mmh. Pourquoi justement ? Pourquoi ce tabou ? Parce que c'est tellement douloureux.
Alors il y a un tabou. Moi j'ai trouvé une explication, mais ça va être difficile à... Vous savez, je vais à Paris, donc moi je suis l'arabe qui vient d'Afrique, qui vient du Maroc. Je ne suis pas une éminence. Je ne suis pas une éminence qui va peser. Parce que j'ai refusé l'exil. D'accord ? Je suis rentrée au Maroc parce que c'est là que ça se passe et parce que c'est en Afrique que des cerveaux, que de la pensée doivent exister et non pas être le transfuge qui raconte aux Européens ce qu'ils veulent entendre et aux Américains. Donc, je vais me battre. Mais j'ai compris pourquoi, parce que je l'ai vécu. J'avais une relation, j'allais dire démentielle. Oui, démentielle, c'est le mot, parce que j'avais un attachement extrêmement excessif. Je suis une passionnée, donc j'avais un attachement extrêmement puissant vis-à-vis d'une personne qui me dépassait dans tout, qui était d'une somptueuse beauté. Et qui me dépassait dans tous les domaines. Et donc, j'ai compris pourquoi. En perdant cette personne, et un jour à Tunis, dans une assemblée, qu'on m'a parlé d'elle et que j'étais moi, j'avais reçu comme une vague de 17 mètres en entendant parler de mon enfant par quelqu'un, par un homme. Et donc, je me suis rendu compte petit à petit que c'est parce que il ne faut pas empêcher les autres d'être heureux avec leurs enfants. C'est-à-dire, nous sommes une minorité à part de personnes qui ont perdu des enfants, et cette minorité ne doit pas empêcher les autres d'exulter dans leur paternité et leur maternité. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Mmh. Alors qu'en arabe, il y a le mot tiakala, ça veut dire perdre un enfant, mais c'est une injure. On disait dans l'Arabie pré-islamique que ta mère te perde. Tiakalatka ummat, que ta mère te perde. C'est pas une injure, c'est une imprécation c'est une malédiction. Quoi.
Vous voyez ? Absolument.
Voilà, et donc tout ça n'a pas été dit, écrit, exploité. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire parce que, par exemple, moi je vois les guerres actuellement. J'ai beaucoup eu d'empathie pour l'Irak, pour la Syrie, pour tous ces pays, pour la Libye. Mais tous ces hommes, tous ces civils qui meurent, ces hommes, ces femmes, ces enfants, les enfants de Gaza, il y en a un nombre incalculable. Il y a une mère qui les a eus et qui les peine. Il y a une mère qui les a eus et qui les a élevés, qui les a fait arriver à certains âges, plus ou moins importants en nombre d'années. Mais cet effort que nous faisons dans notre ventre pour faire des enfants, on n'en tient pas compte. On ne tient pas compte de la maternité. On n'en tient pas vraiment compte. Je suis en train d'écrire, d'ailleurs, je refais un livre qui s'appelle « Le complexe de Médée ». Et ça s'appelle « Les labyrinthes de la maternité ».
Alors, j'ai une question quand même par rapport à tout ça. C'est que vous, vous êtes psychiatre. Donc, j'imagine que vous avez eu à accompagner des personnes en deuil avant de le vivre vous-même.
Avant et après.
Avant et après. Est-ce que la forme d'accompagnement a changé ?
Alors, évidemment, parce que c'est un vécu. Moi, je dirais que nous, les mères, les femmes, on vit ça dans nos viscères, dans notre ventre. C'est pas uniquement notre cœur, c'est notre ventre, c'est notre être. Et donc, l'expérience en elle-même fait que la femme ou l'homme en face de moi, parce qu'il y a eu aussi des hommes qui sont venus, il y a une espèce de teintement de nos humanités ensemble. Il y a une réverbération de la douleur, de la leur vers moi, mienne vers eux. Il y a un accompagnement entre nous pour que nous puissions le dépasser. Parce que sinon, on va mourir. Si on ne le dépasse pas, on va mourir. Et très souvent, je me prends à dire aux mamans, d'abord, on se quitte dans les bras les unes des autres, de ces femmes-là, de ces désenfantées. Et très souvent, tout le temps, je leur dis, vous prenez une petite bouteille d'eau de fleur d'oranger, vous la verserez sur la tombe de votre enfant, je serai avec vous. Parce que c'est rituel, justement, chez nous, d'honorer la tombe de cette manière. Et une mère qui est accompagnée par une autre mère a quelque chose de moins dans la souffrance. Si peu, mais quand même.
Moins de solitude dans le ressenti.
C'est-à-dire que de se savoir pas seul avoir vécu ça, ça diminue l'horreur.
Ça diminue l'horreur. Oui.
Ça diminue pas la souffrance, ça diminue l'horreur.
Exactement. Alors, en même temps, on dit qu'un deuil a un début et une fin. Est-ce que le désenfantement, les désenfantés aussi, ont un début et une fin dans leur deuil ?
Non, je ne le crois pas. Je ne le pense absolument pas du tout. Ça, c'est des théories souvent masculines. Parce que le père fait un deuil de l'enfant différent. Certainement beaucoup plus violent sur le moment, mais beaucoup plus résilient dans le temps. La mère, non. La mère, c'est pas possible. Moi, je vois quotidiennement la ligne de cicatrices de césarienne que j'ai dans le ventre. Je dis, non, c'est pas possible.
Donc il n'y a pas de début et de fin.
Il n'y a pas de début. Il y a le début avec la perte.
Perte, oui.
Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a aucune fin. Il n'y a pas de fin parce que la personne désenfantée est une endeuillée à vie.
Oui.
Et ça, que le veuillent ou non les psychanalystes occidentaux, je suis désolée, mais nous avons une sensibilité aussi qui est la nôtre dans notre culture, dans notre civilisation. Et moi, je suis en mesure de prouver des choses que eux ne veulent pas ou ne peuvent pas. Ou ne peuvent pas prouver.
Mais est-ce que le deuil se transforme ?
Le deuil prend plusieurs formes. Ça dépend de chaque personnalité, de chaque sensibilité. Il se transforme. C'est un accompagnement. C'est-à-dire que la personne qui est partie, l'enfant qui est parti, est en nous. Et il nous accompagne. Il y a un moment dans la journée où il va traverser notre esprit. On va s'arrêter, par exemple, où on va retrouver un objet lui appartenant, ou une photo, ou un dessin à lui, ou un flacon de parfum qui n'a pas été jeté, qui a encore le liquide, qui est devenu très foncé. C'est-à-dire que c'est un accompagnement permanent.
Oui. C'est pas... Vous les avez gardées, ces choses-là ?
J'ai gardé, ma fille dessinait énormément, avait une bibliothèque personnelle, je pense qu'il y a 400 à 500 livres. Elle est partie, elle avait 15 ans, pas tout à fait et demi, mais elle avait déjà un nombre de livres, de cassettes vidéo, de musique impressionnant. Mmh. Moi, c'est une médiathèque, elle seule, une médiathèque entre l'enfant et l'adolescente. Et donc, ces objets-là, on peut difficilement s'en séparer.
Oui, oui.
Et ça jalonne toute la journée, ça scande la journée. Moi, j'ai des photos partout d'elle je vis avec elle. Je veux dire, on peut pas d'une personne qui est partie se séparer.
Oui.
Parce qu'on l'a eu dans notre ventre. Vous êtes une maman, vous savez quand je dis ça ce que ça veut dire.
Oui. C'est pour ça que j'ai ressenti ce que le désenfantement veut dire, en fait, la profondeur de cette vie qu'on nous a pris, qui est sortie de nos entrailles. Alors,
mais en plus, oui. C'est des erreurs médicales. Hein. En plus, c'est des erreurs médicales. Donc, imaginez comment je suis redevenue, moi, médecin. C'est-à-dire... Mais finalement, il y a un moment où tous les médecins me paraissaient des ennemis.
Mmh. C'est ce qui s'est passé pour elle ?
C'est ce qui s'est passé pour elle. C'est un enchaînement d'erreurs médicales.
Ok. Ouais.
Ça a été reconnu. Je pense que c'est une des très très rares erreurs médicales reconnues par le tribunal à Casablanca,
ouais.
Au Maroc.
Ouais.
Oui.
Mais
je me suis battue 15 ans pour ça. Ouais. 15 ans. Et les confrères ont été odieux parce que personne n'a voulu faire d'expertise. Les hommes, les femmes, les rhumatos, tout ce que vous pouvez. Et personne n'a voulu faire d'expertise, tant et si bien que le juge a été obligé, lui, de statuer par rapport à tous ces manquements, par rapport à tout ça. Et donc, ce terrain aussi de l'erreur médicale, il est énorme. Mais je n'ai pas voulu l'ouvrir. Parce que soit je ne restais pas médecin et je rentrais dans la bataille de l'erreur médicale, qui est très, 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 très fréquente, il faut le dire. Soit je continue à être médecin et non pas que je pardonnais, je ne pardonne pas. Je ne pardonnerai pas à ces médecins-là. Mais moi, je fais de la médecine différente. Je peux me tromper, j'assume de me tromper, mais je veux la faire avec un maximum d'honnêteté d'efficacité.
Oui.
Et d'efficacité.
Rita Al-Khayat, vraiment, je vous remercie pour cette sincérité, parce que quand on voit l'enchaînement des titres que vous avez, on se dit c'est une femme, c'est une maman endeuillée, oui, mais elle est psychiatre, elle a les outils, elle a dépassé, elle continue son chemin. Mais là, c'est vraiment cette, moi je dirais presque cette maman encore meurtrie en fait que j'ai au téléphone aujourd'hui, 28 ans après.
Oui, tout à fait, c'est exact, vous avez raison.
Exactement ça. Alors, oui. Ça fait plus de 20 minutes qu'on parle. Là, on va raccrocher. Moi, je vais reprendre ma vie. Vous allez reprendre la vôtre.
Oui.
Mais comment quand vous vous donnez une interview sur ce sujet, comment vous êtes après, une fois qu'on raccroche ?
Alors, écoutez, je vais avoir un moment où je ne vais rien faire. Je vais rien faire. Je vais regarder le ciel, probablement. Après, je vais penser que j'ai un programme et que je dois l'honorer, puisque j'ai une consultation à 15 heures. Donc après, je vais m'efforcer de déjeuner et ma consolation est amère, ça va être du café. C'est le moment où je vais le prendre en essayant donc de restaurer quelque chose du quotidien. D'autant plus qu'on est lundi, vous voyez, et qu'il faut démarrer la semaine. Mais moi, je suis profondément touchée par votre questionnement et la manière dont vous avez mené cette interview. Je suis très, très heureuse de cette sensibilité que j'ai en face de moi, une sensibilité féminine comme la mienne, celle d'une maman et deux filles par-dessus le marché. Et cette profondeur dans vos questions, votre manière d'aborder l'interview, me comble par rapport à ma problématique. Elle me comble. Merci, parce que j'ai dit des choses et vous m'avez, non pas poussé, vous m'avez convié à les dire avec tellement d'humanité, alors que je ne vois même pas votre visage puisque je ne vous connais pas. Mais c'est une grande chose. Merci.
Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.